La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. En ce mois consacré à la morale chez Jacques Maritain, après Socrate, nous allons cette semaine voir en quoi consiste la morale de Platon selon Jacques Maritain tel qu'il la reçoit. En 1960, Jacques Maritain publie « La morale ». C'est un chef-d'œuvre, je le rappelle pour les auditeurs qui prennent en cours les émissions, en philosophie réaliste, vous avez deux plans, le plan spéculatif, dont la finalité est la connaissance de l'être, et le plan pratique qui se divise lui-même en deux domaines, le plan de l'art et le plan de la morale. Jacques Maritain publie une véritable somme en 1960 puisqu'il passe en revue les différents philosophes qui ont parlé de la morale ou qui ont édifié un système moral. Je n'aime pas le mot de système, ni celui de dogme, ni celui de construction. Je préfère celui d'organicité qui est propre à la philosophie réaliste, mais on peut quand même remarquez qu'à partir du XVIIIe surtout, les philosophes ont érigé la morale en un système. À l'aube des temps de la philosophie, Socrate avait été remarqué par Maritain pour son intériorité, c'est-à-dire que la morale était elle-même liée à une spiritualité, à une sagesse. Qu'en est-il avec Platon ? Platon se défait-il de la spiritualité ? L'intègre-t-il dans son système philosophique ? Qu'en est-il vraiment ? Pour la plupart d'entre vous, si on vous dit Platon, vous allez dire dualisme. Dualisme, c'est celui des idées qui sont éternelles, eidos, les formes, qui s'incarneraient dans la matière, qui, elle, est marquée par l'espace et le temps, par la limite, par le changement, par tout ce qui est mouvement et qui n'est pas éternel. Et quand l'idée est délivrée de la matière, elle remonte dans le ciel des idées. Cette matière est aussi le corps. Et en grec, le corps se dit « soma ». Et vous avez un jeu de mots sur un homonyme ou presque, qui est « sema », le tombeau. « Soma »,« sema », c'est un résumé pour dire que le corps est le tombeau de l'âme. Autrement dit, l'âme, l'eidos, donc la forme, s'incarne dans le corps, dans la matière, et remonte à la mort du corps dans le ciel de l'immortalité, ou de l'éternité. Je préfère dire immortalité, puisqu'en philosophie antique, c'est l'immortalité. L'éternité, c'est davantage dans le domaine chrétien. Ce dualisme platonicien est un repère. On ne peut pas non plus le rendre raide comme système, mais quelle est sa retombée au plan de l'agibilé, c'est-à-dire au plan de la morale, de la pratique ? Eh bien, pour Maritain, Platon met en place la transcendance. La transcendance avec plusieurs idées. L'idée de bien, les transcendentaux, bien, bon, beau, un, être, multiple, sont inventés, je ne dis pas que le mot inventé soit juste, mais sont répertoriés, classifiés, établis par Platon. Une deuxième notion fondamentale pour ce système de la morale platonicienne, c'est la transcendance de la fin après celle du bien. Et enfin, un bonheur supra-empirique, c'est-à-dire au-dessus de l'expérience. On est donc dans une vision que l'on pourrait dire scalaire. Scalaire, c'est-à-dire un escalier, des marches, un système de progression. Et j'insiste sur cette vision parce que dans le christianisme, les deux philosophies qui vont être empruntées à la compréhension chrétienne sont celles de Platon et celles d'Aristote. Et celle de Platon, avec son système scalaire, va être souvent vue finalement avec un danger de plaquer le dualisme platonicien, qui n'est pas chrétien, sur une dogmatique chrétienne qui, elle, prône la résurrection de la chair. Le corps n'est pas le tombeau de l'âme, soma, sema, non. Il y a la résurrection de la chair, c'est l'événement fondamental du credo chrétien, et le danger de reprendre une transcendance platonicienne avec des notions qui transcendent la vie humaine, hein, le bien, la fin et le bonheur supra-empirique, c'est le danger de faire un coupé-collé, si vous voulez, entre un système scalaire et un système chrétien qui n'est pas scalaire, qui est celui du sauveur qui nous a sauvés, c'est-à-dire du pécheur sauvé. La grâce peut tout au dernier moment. Qu'en est-il dans le détail ? Alors je vais vous lire des extraits de Maritain parce que j'aime beaucoup son style. Et voilà qu'il introduit la notion de participation. Pour Maritain, la notion de participation est essentielle à Platon. C'est-à-dire que l'homme est fait pour participer au divin. Mais de quelle manière ? Au fond, de la manière d'une tangente qui n'arrive jamais à la ligne supérieure. La courbe restera toujours courbée de l'ordre de la tangente, mais n'arrivera jamais à coller à la courbe, à la ligne supérieure qu'elle vise. La participation platonicienne ne peut se faire que par un décret finalement du divin. Je fais une comparaison déjà faite dans cette émission en octobre quand on a parlé de l'art. Dans un court dialogue de Platon, Ion, l'artiste est tout content d'avoir été primé au jeu pour les poètes. Et il revient vers Socrate et il dit « Finalement, nous avons été primés parce que nous avons été inspirés. » Et Socrate lui dit « Ah bon ? Mais si tu es inspiré, est-ce vraiment toi qui as créé la poésie ?»« Ah oui, mais j'ai été guidé par les muses. » »« Et si tu es guidé, jusqu'à quel point es-tu responsable de cette poésie ? N'as-tu pas été un esclave, un doulos ?» Ah oui, peut-être, certes Platon, assurément Platon, tu as raison. Eh bien, cette manière participative dans l'art, où finalement la muse inspire l'artiste au point de le rendre esclave, de le désincarner de sa condition humaine d'homme libre et donc faillible, cette vision participative, elle est là aussi en morale, et voilà comment Jacques Maritain l'analyse. La morale de Platon est elle aussi une morale du bonheur, comme celle de Socrate. Mais le bonheur de l'homme n'est qu'une participation à un absolu transcendant, dont la réalité est indépendante de nous et de la vie humaine. Le bien, qui est identique à l'un, et au-delà de l'essence, le bien subsistant, l'idée du bien, qui en dépit de ce nom d'idée qu'en vertu de la dialectique il faut bien lui donner, est supérieure à toute intelligibilité et à l'être même, car pour Platon, en définitive, l'être ne peut se délivrer de la multiplicité inhérente aux relations mutuelles entre types intelligibles ou essences. Dans la perspective du platonisme, porté à l'extrême de ses exigences logiques, Dieu, qui comme le soleil illumine et vivifie tout ce qui est au-dessous de lui et qui fait l'ordre et l'harmonie du cosmos et de l'âme, Dieu donc est au-delà de l'intelligence comme de l'essence, et finalement n'est atteint en quelque mesure que par une espèce de mort mystique de l'intelligence extasiée dans le bien par le suprême Eros. Vous repérez dans les mots que j'ai utilisés tout à l'heure une traduction du texte de Maritain. Je parlais de tangente qui va atteindre une ligne, mais en laissant toujours un petit espace entre elle et la ligne. Ici, Maritain explique que le bien est tellement loin de l'homme que ce n'est que l'éros qui peut y atteindre. Qu'est-ce que l'éros ? L'éros, c'est le désir d'aller vers l'autre, qui est un des premiers degrés de l'amour. Trois termes vont traduire en grec la relation d'amitié ou d'amour, éros, philia et agapé. Et c'est à agapé que va revenir finalement l'ultime de l'amour récupéré dans le texte de Saint Jean quand le Christ dit à Pierre « m'aimes-tu » par trois fois. Nous reviendrons dans le détail à propos de la fin, puisque fin et bonheur sont les deux autres notions transcendantes qui articulent l'un comme transcendantal ultime au-delà de l'être, après la plage musicale.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Vous vous demanderez peut-être quel était ce compositeur. Il s'agit de Déodat de Séverac, enterré à Saint-Félix-de-Lauragais, et il est interprété par Aldo Ciccolini, enterré lui aussi à côté de son maître, qu'il a défendu toute sa vie. Revenons à Platon et à cette initiation qu'impose cette vision de la transcendance du bien, d'un bien inaccessible. Maritain dit que le but que l'initié se propose avant tout dans son activité morale est donc de se libérer de la prison du corps et de se purifier par l'ascèse et l'amour, en se repliant vers l'intérieur afin de dégager la ressemblance divine qui appartient en propre à l'âme, chose divine, et de contempler le divin, de s'évader d'ici là-bas, de parvenir à l'assimilation à Dieu par une mort que la sagesse opère et qui est incomparablement plus parfaite et plus libératrice que la mort physique, et qui seule fait réussir la mort physique en triomphant de la transmigration. À l'égard de ce bien transcendant, le bonheur apparaît comme une ascension jamais achevée, un progrès dans la participation qui n'atteint jamais sa limite. Et cela même, cette transcendance du bien par rapport au bonheur, témoigne d'une distinction entre le bien et le bonheur qu'en général, la philosophie morale des Grecs n'a jamais explicité. C'est comme si le désir transnaturel ou transphilosophique qui nous habite s'éveillait dans la philosophie elle-même pour la faire aspirer, non pas sans doute à la vision intuitive du bien séparé, mais à une montée sans fin vers une telle unité, regardée comme inatteignable avec celui-ci. Voilà ce qu'on peut saisir comme base, comme fondement de la morale platonicienne. Une des deuxièmes notions essentielles, c'est celle de la fin. Qu'est-ce que la fin, F-I-N, hein, il ne s'agit pas de la fin F-I-M. La fin de la vie humaine est absolument transcendante avec Platon. Cette transcendance du bien et du but était sans doute ébauchée dans certaines virtualités de la pensée socratique. Mais pour Platon, c'est affirmé. Voici comment Maritain l'analyse. Tandis que pour Socrate, la fin, quoiqu'implicitement surhumaine de l'activité humaine est inhérente à celle-ci, qui, si elle est bonne, nous fait heureux du même coup, tandis que pour Socrate, la morale est l'art d'être heureux par le bien-vivre, pour Platon, au contraire, la morale est l'art de se préparer à une félicité qui transcende la vie humaine. Car dès l'existence terrestre, et après elle, la vraie vie est au-delà de la vie, le vrai bonheur au-delà du bonheur. On comprend dès lors pourquoi Platon peut être un outil philosophique qui semble adéquat à penser le christianisme, mais adéquat jusqu'à une certaine mesure. C'est qu'il faut se séparer du corps, il faut mener une ascèse contre le corps, contre la matière, et c'est là que la divergence avec le christianisme est affichée. Pour simplifier, je dirais que Platon offre un bonheur transcendant, alors que Socrate proposait un bonheur immanent. Chez Socrate, l'utilité en morale était fondamentale. Est-ce que c'est utile? Est-ce que la vertu me permet d'être meilleur aujourd'hui et maintenant? Chez Platon, vous le sentez, il y a toujours une tension vers un ailleurs, vers un au-delà, précisément inaccessible et de l'ordre d'une participation jamais participative. Toujours finalement à faire. Toujours work in progress, pourrait-on dire en anglais. Toujours vers un devant. Vous sentez bien que la participation dans la mystique chrétienne n'a rien à voir. Quand Saint Jean de la Croix écrit qu'il participe à la divinité, qu'il se fait divin, c'est par effusion de la grâce et il y a concrètement, réellement, dès maintenant, une divinité de l'homme qui se fait dans le royaume de Dieu, déjà là et cependant pas encore là. Ce n'est pas uniquement le pas encore là de la tension vers un futur que l'on retrouve chez Platon. Troisième notion qui définit ou qui cadre, si vous voulez, la morale platonicienne, c'est le bonheur supra-empirique. Non seulement le bonheur est intérieur à l'homme, commente Jacques Maritain, mais il perd tout caractère empirique. Heureux est le juste torturé, cette extrême conséquence de la logique socratique fait éclater l'instable structure du bonheur socratique. À vrai dire, elle est avant tout un défi paradoxal et se rapporte à une félicité en espérance, à un suprême élan de rupture et de dépassement. Platon, cependant, chérit ce paradoxe et y met toute sa ferveur, parce que dans l'ordre éthique, comme dans l'ordre métaphysique, sa pensée est entièrement dominée par l'idée de participation. Il ne s'agit pas pour lui d'obtenir une béatitude qui sera achetée ici-bas par la souffrance, comme c'est le cas chez Socrate. Il s'agit de participer ici-bas à une béatitude qui transcende toutes les conditions d'ici-bas. Il faut donc bien que le juste torturé soit actuellement heureux, mais cela même n'est possible que parce que l'immortel en nous fait notre seule réalité et parce que le vrai bonheur n'est pas le bonheur. Relisons quelques pages du Gorgias juste après la détente avec Déodat de Séverac, joué par Aldo Ciccolini. Qui est le plus heureux ? Dans le Gorgias, Platon nous donne la réponse. Le plus heureux, c'est celui dont l'âme est exempte de mal, puisque ce mal de l'âme, nous l'avons dit, est le plus grand des maux. Au second rang, vient celui qui reçoit des conseils, des reproches, qui paye sa faute. Celui qui garde son injustice, au lieu d'en être délivré, est le plus malheureux de tous. Chacun de nous, pour être heureux, doit rechercher la tempérance et s'y exercer, fuir de toute sa vie l'intempérance, faire en sorte, avant tout, de n'avoir aucun besoin de châtiment. Mais s'il arrive que nous en ayons besoin, nous ou les nôtres, particuliers ou cités, le subir et payer la peine de nos fautes est le seul moyen d'être heureux. Vous le sentez, il y a une rétribution chez Platon qui permet d'être heureux parce qu'elle est articulée sur une quatrième notion qui fonde la philosophie morale, c'est celle de valeur. Et c'est parce que morale met en place la valeur qu'il pourra ensuite mettre en place la cité. La cité qui, dans les lois, dans la République, propose le philosophe à la tête de la cité. C'est, chez Platon, une pyramide exactement opposée à celle de nos sociétés de consommation. Pour Platon, le philosophe est à la tête de la cité. Ensuite, vous avez les artistes et les artisans au milieu, puisque l'artiste n'existe pas, c'est l'artisan. Et en bas, le commercial. Parce que vraiment faire du commerce, c'est ce qu'il y a de plus bas, de plus dégradant pour l'homme. Vous renversez la pyramide et vous avez notre société de consommation, où peut-être actuellement 0,001% de nos concitoyens lisent de la philosophie, même si tout le monde a une aspiration à la philosophie, parce qu'on sent bien qu'il nous faut réfléchir sur le « comment vivre » articulé au « pourquoi vivre ». Qu'est-ce que la valeur pour Platon ? Le concept du bien a deux implications typiques. Observons l'usage que les hommes font de lui, écrit Maritain. Nous le voyons se cliver, pour ainsi dire, selon deux lignes de signification bien distinctes, orientées dans deux directions différentes. D'un côté, le bien est synonyme de fin. Ici, nous avons la direction de causalité finale. Le bien, par là même qu'il est bien, est le point de mire que nous visons. Et tout le reste, c'est-à-dire tout l'ordre des moyens, est bon seulement par rapport à cette fin, ou pour autant qu'il est propre à y conduire. Si le philosophe engagé dans le domaine de la philosophie morale, si le philosophe éthique considère les choses dans cette seule perspective, les actes humains lui apparaîtront comme moralement bons en tant que moyen, et uniquement en tant que moyen conduisant à la fin, à savoir au bien ultime ou au souverain bien de la vie humaine. D'un autre côté, le bien est synonyme de valeur. Ici, nous avons la direction de la causalité formelle. Si le bien nous apparaît comme bien, c'est parce qu'il nous apparaît comme une certaine plénitude d'être, un certain achèvement qualitatif, intrinsèque, dont la propriété est d'être aimable ou désirable, ce qui est bon et digne d'amour, vaut d'être aimé et désiré, a une valeur en soi et pour soi. Et à vrai dire, cet aspect est l'aspect primordial du bien. C'est par lui que le bien doit être primordialement décrit. Du coup, la nouveauté platonicienne, c'est la primauté de la valeur. Primauté de la valeur qui lui permet d'installer la cité idéale, la cité parfaite. C'est sur les valeurs en elles-mêmes que l'accent est mis dans l'éthique de Platon, souligne Maritain. Éthique des valeurs, avec la dignité intrinsèque qui leur est propre, plus encore qu'une éthique de la fin dernière. Cette éthique a un caractère, pour ainsi dire, esthétique, et on comprend pourquoi, chez Platon, l'un et le beau sont des transcendentaux majeurs, encore plus que l'être. La valeur fait que, pour le moment, l'éthique de Platon dégage et souligne, met en relief, la notion de valeur avec une force exceptionnelle et la fait passer au premier rang, particulièrement en ce qui regarde la manière dont est mesurée ou déterminée la moralité des actes humains. Toute action moralement bonne ou vertueuse possède une valeur interne en raison de laquelle elle mérite par elle-même l'approbation ou la désapprobation de l'esprit. Mais à cause de ce caractère esthétique et de cette prédominance du beau dans la philosophie morale, il y a un problème, même si c'est l'idéal grec du kalos kai agathos qui va définir l'homme parfait, l'honnête homme pourrait-on dire, selon nos catégories propres au XVIIe. À la semaine prochaine avec Aristote.